voilà, le néo-burlesque. Tu chantes avec les mecs, c'est super. Et en fait, tu rencontres ton voisin, tac, tu commences à discuter, tout ça. Moi, j'ai envie de me mettre nue sur scène avec eux, quoi, et de danser. Bon.
Bonjour à toutes et à tous, bonne année, soyez les bienvenus dans Zoom Zoom Z millésime 2025. On est ravis de vous retrouver après deux semaines de vacances, même si l'équipe de Zoom Zoom est encore sous le choc des événements tragiques survenus le 19 décembre dernier lors de la funeste soirée de Noël de Zoom Zoom Z. Soirée au terme de laquelle l'une des nôtres devait finir aux urgences de l'hôpital Bichat après un salto arrière plus violent encore que celui vécu une semaine auparavant par Valentin, feu notre stagiaire, qui avait laissé la moitié de son nez sur un trottoir du 16e arrondissement. De là à conclure que le Dry January arrive peut-être à point nommé pour une équipe très portée sur la boisson, il n'y a qu'un pas, mais excès alcoolique ou pas, la soirée avait de toute manière fort mal commencé, puisqu'en effet, on en avait confié l'organisation à mon auteur, Gérald Arnaud. Première erreur. En même temps, qui aurait pu deviner que cet homme si calme et propre sur lui en journée était en réalité un habitué des clubs libertins sadomaso la nuit. La première surprise fut en effet le choix du lieu, puisque Gérald n'avait pas opté pour un restaurant, mais pour la cave d'un restaurant. Un sous-sol olfactivement riche en souvenirs des précédentes soirées, évidemment dépourvu de toute fenêtre ou aération. Comme si le but était qu'en cette période de haute circulation des virus, toute l'équipe chope le rhume dantesque de Cyril Lacarrière, notre rédac-chef, qu'on a été heureux et surpris de retrouver ce matin, sachant que le 19 décembre dernier, son pronostic vital était engagé et que personne ne pensait qu'il vivrait jusqu'à ses 50 ans. Personnellement, ma préoccupation essentielle lors de cette soirée fut de me tenir le plus loin possible de Cyril qui éternuait en gerbe folle toutes les deux minutes, les yeux exorbités, embués de fièvre, qu'on aurait dit un zombie dans The Last of Us. Bref, on avait connu de soirées de Noël plus rieuses et pourtant, le pire était encore à venir, puisqu'en effet, grisés par le vin nature qui nous avait été offert, certains décidèrent de prolonger la soirée en discothèque. Parmi ces jeunes inconscients, notre réalisatrice pole danseuse Alicia Vulot, qui se réjouissait d'être aux commandes de l'émission du 6 janvier sur le néo-burlesque, Alicia qui se déhanchera toute la nuit sur le dance floor du Carmen avant de se réveiller aux urgences de Bichat avec une double fracture tibia péronée. Que s'est-il passé? Elle ne sait pas, c'est
la
flou.
Pauvre.
C'est
elle
flou.
Va bien.
La seule chose dont elle se souvient, c'est que juste avant de chuter, elle s'était vu offrir un verre par un garçon juché sur un poney. En fouillant dans les tréfonds de sa mémoire, partiellement effacée par le gin tonic, elle parviendra peut-être un jour à se souvenir de son nom, Étienne Bertin. Zoom Zoom Zen, sans Alicia, mais on pense à elle, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Bonjour Mara Denudé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes artiste, vous êtes effeuilleuse burlesque. Plus précisément, on est très heureux de commencer l'année avec ce sujet. Vous allez nous faire découvrir votre univers, nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme très employé, mais souvent entre galvaudés, de néo-burlesque. Juste le temps de vous présenter mes fidèles complices. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
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 Bonjour et bonne année.
Et meilleurs vœux à tous.
Mais,
bonne santé bon. Et tout
ouais,
ça.
Bon,
Cyril
bon.
Soupire déjà. À vos côtés, Mara, le fait que je lui ai demandé ce matin comment s'était passé son réveillon à Méribel alors qu'elle était à Rome, prouve à quel point je m'intéresse à ce qui se passe dans la vie de mes collaborateurs. Manon, chaque après-midi, vous nous présentez l'autre personne à suivre pour aller plus loin.
Vous n'avez pas regardé mes stories, manifestement.
Mais en plus,
il y avait beaucoup de pâtes.
Je me disais, ça mange beaucoup de pâtes à Méribel. Vous n'aimez pas le fromage
c'est
en même temps.
Ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'icône du burlesque, la reine même, comme elle est surnommée, look de vampire trop rouge à lèvres et tenue sexy. Je vous parlerai de Dita Von Teese, évidemment.
Face à vous, Mara, Londres, Milan, Rome, nul ne sait lui où il a passé les fêtes, une chose est sûre, certainement dans une capitale de la mode. Le milieu naturel de ce dandy, le seul écosystème où il se sent à sa place avec sa fameuse chemisette façon cow-boy, mais Kenzo quand même, comme il nous le faisait remarquer lors de la fameuse soirée de Noël. Quentin, chaque matin, vous arpentez les rues à la rencontre des passants afin de les faire réagir à notre mot du jour. Alors, le néo-burlesque, ça les a inspirés.
Mais elle vous a plu cette chemise?
Oui, elle m'a beaucoup plu.
Un peu
oui, bon, je taquine, mais elle m'a plu.
Bon, je me suis rendu dans le quartier du néo-burlesque à Paris, Pigalle et ses alentours, des cabarets qui ne désemplissent jamais et les passants devant qui réagissent. C'est dans la prochaine demi-heure, Mathieu.
Vers 16h30, on remettra les compteurs à zéro dans le Zoom Zoom Test. Ah. Seule manière de raviver le suspense dans une compétition où Manon menait jusqu'à présent 342 victoires à 78. Aujourd'hui, le quiz nous mènera à la rencontre de ces stars qui ont pratiqué les feuillages avant de connaître le succès, contrairement à Alicia Vulot, notre réalisatrice qui, elle, a créé son Cotton Lee Fans après être devenue célèbre. Juste juste avant 17h, Marine Leonardi nous dira si elle a réussi à supporter son mari durant les fêtes de fin d'année. Mais d'abord, Mara, question sémantique qui s'impose pour commencer. C'est quoi déjà la différence entre le burlesque et le néo-burlesque ?
Alors, le néo-burlesque, c'est tout simplement le second souffle qu'on donne au burlesque, qui lui est né à la fin du 19e. Le new burlesque, lui, arrive dans les années 90.
D'accord, c'est juste une différence historique, finalement.
Voilà, on va pouvoir préciser tout à l'heure.
Parmi nous, également cet après-midi, celui qu'on pensait retrouver au Père Lachaise en ce début 2025.
Ah, oh, oui.
Chacun de ses organes internes semblant partir en lambeaux fin 2024, mais non, la bête est coriace. Et il s'est requinqué au soleil des Caraïbes. En effet, quoi de mieux que la République dominicaine à Noël pour apporter la touche finale à un des plus beaux bilans carbone de l'année écoulée. Ah, là, là. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël. Alors, justement, à propos de bilan carbone, je me suis posé une question quand j'étais dans l'avion.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'après 20 ans, ça fait 20 ans qu'on n'a plus le droit de fumer dans les avions, pourquoi on fabrique encore des avions avec le voyant interdiction de fumer ? Je m'adresse ici au patron d'Airbus.
Alors, peut-être parce que ça
Boeing.
N'a pas changé et que c'est des anciens avions.
Non, j'étais dans un avion neuf.
Il ne prend que des avions neufs.
Ça n'a aucun sens.
C'est bien que ça tombe là, parce que
Mais vous pensez pas qu'il y aurait une émission à faire là-dessus, peut-être ? Parce que ça me semble trop court. Notre petit échange me semble trop court là-dessus.
Signaux tabac, par exemple, on appellerait comme ça.
Je pense que c'est pour le rappeler aux gens.
Mais à mon avis,
ça fera effectivement une très bonne émission. Cyril, chaque après-midi, quand votre santé défaillante vous le permet, vous nous racontez l'origine de notre mot du jour. Alors dites-nous, le néo-burlesque, d'où ça sort ?
Eh bien, c'est à Paris que tout aurait commencé. 1894, la salle du Concert à Lisbonne, rue des Martyrs. L'artiste Blanche Cavalli est sur scène. Blanche Cavalli, je vous la situe, de son vrai nom Eugénie Zélias Chevalier. Elle est chanteuse, comédienne, une performeuse, dirait-on aujourd'hui. Blanche Cavalli fait un effeuillage, c'est-à-dire qu'elle retire un à un ses vêtements pour finir complètement nue. C'est bien simple, on n'avait jamais vu ça. Mais on est en 1894, cet effeuillage fait scandale, du coup la salle est fermée pour un an. Une dizaine d'années plus tard seulement, c'est l'américaine Millie de Leon qui se fait un nom. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme la première star burlesque du XXe siècle. Elle est même surnommée Queen of All Dancers ou The Girl in Blue, la fille en bleu à cause de ses costumes de scène. À partir des années 20, les femmes qui pratiquent le burlesque deviennent des pin-up de Josephine Baker à Dita Van Teese en passant par Tempest Storm, la tempête du désert.
Mais là, vous nous parlez essentiellement, Cyril, de spectacles de nu, mais le burlesque, c'est pas que ça.
Effectivement. D'ailleurs, si on regarde dans le dictionnaire, burlesque, ça qualifie quelqu'un d'un comique extravagant, saugrenu ou grotesque, ce qui n'est pas forcément le cas d'un effeuillage. Et si on prend le terme burlesque au sens de cette définition, on se rend compte que l'on peut remonter bien au-delà de cette soirée parisienne rue des Martyrs. Pour certains spécialistes, on le pratiquait déjà durant la Grèce antique. Le comédien Aristophane a mis sur pied une pièce burlesque parce qu'elle se moquait de la culture, des autorités et de la religion. Et c'était donc avant Jésus-Christ notre sauveur. Des siècles plus tard, même des pièces de Shakespeare ont été qualifiées de burlesque sans que personne n'y soit nu. Alors, qu'est-ce que le néo-burlesque doit à ce burlesque des origines ? Est-ce que ça peut être burlesque sans être en restant habillé ? Pourquoi est-ce que c'est revenu à la mode ? Ça veut dire quoi de se revendiquer artiste burlesque ? Quentin va-t-il s'effeuiller durant l'émission ? C'est ce qu'on va voir, durant une heure.
C'est pas prévu.
Si, il y sera obligé pendant le Zoom test. Vous verrez. Ah, tout ça est très bien ficelé. Merci Cyril. Mara Denudé, grâce à Cyril, on se rend compte que le burlesque, ça vient quand même de très très loin, en tout cas si on prend une définition large de ce qu'est le burlesque. Il était temps de dépoussiérer cette discipline, le néo-burlesque est arrivé à point nommé dans les années 90.
Voilà, exactement. Le new burlesque revient dans les années 90. Il était, surtout temps de rendre les plateaux d'effeuillage de spectacles de cabaret plus inclusifs, les rendre montrer au public une diversité de corps, une diversité de genres aussi.
Manon ?
J'ai vraiment une petite question, mais c'est quoi la différence entre effeuillage et striptease ?
Ah. Alors, dans l'effeuillage burlesque, on fait du striptease, mais notre approche, on va vraiment chercher une théâtralité dans l'effeuillage. C'est vraiment ce qui va compter pour nous, c'est le voyage vers la nudité. Comment on va arriver à se déshabiller, à s'effeuiller est-ce que ça va être avec poésie ? Est-ce que ça va être avec humour ? Est-ce que ça va être de manière plus transgressive ?
Voilà. Il n'y a pas de règle. On n'est pas obligé de finir complètement nu, d'ailleurs. Ça peut être un effeuillage partiel.
On utilise les codes du burlesque américain. C'est-à-dire qu'on va toujours garder un cache-sexe et des cache-tétons.
Ah oui, donc ça n'existe jamais le nu intégral dans le burlesque.
Pas si on fait de l'effeuillage burlesque, oui.
Et est-ce qu'on peut dire que le deuxième degré, ça fait toute la différence par rapport à du striptease, par exemple ?
Oui, et c'est surtout la différence, c'est qu'on ne se déshabille pas, pour une audience, pour un public masculin aussi, bien qu'il y ait des femmes dans le public des spectacles de striptease pur et dur, mais dans le burlesque, on va chercher une connivence avec le public. On a un public essentiellement féminin.
Et est-ce que vous diriez qu'il y a une dimension politique ?
Complètement. Déjà de décider en tant que femme de se mettre à nu sur scène, c'est politique. De montrer une diversité de corps, c'est politique. Oui.
Ça casse pas un truc de rire ? Justement.
Oh non, au contraire, la richesse.
C'est sexy, j'en sais rien, recherché.
Oh non, justement, je pense qu'on arrive à faire passer plein de messages.
Il est étroit d'esprit, c'est ce que vous dites.
Mais non, c'est juste une vraie question. Je pense que les gens se posent cette question-là aussi.
Et le rire, on peut faire passer beaucoup de messages, on peut aussi décomplexer les gens de ce rapport à la nudité. Mmh. C'est ça qui me plaît en tout cas.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Je me souviens très bien du jour où j'ai découvert ma passion pour les feuillages. J'avais 13 ans et chez ma mamie, un CD a attiré mon attention. Un album de Liane Folie.
Elle
disait « Déshabillez-moi ». J'ai glissé le disque dans le lecteur et là... Une épiphanie sensuelle. Voilà pourquoi j'ai eu envie aujourd'hui, 30 ans après ces événements, de zoomer sur le phénomène du néo-burlesque. Avec vous, Mara Denudé, effeuilleuse burlesque. Mara, c'est qui le public qui va voir des shows burlesques aujourd'hui en France en 2025 ?
Et bah, comme je vous le disais, il y a énormément de femmes. On va dire 70% des personnes du public sont des femmes. Je pense que notre approche de la sensualité leur plaît. Et c'est pour ça que, voilà, même dans nos followers, par exemple sur les réseaux sociaux...
Essentiellement des femmes.
Et pourquoi, à votre avis ? Bah, je pense que, justement, l'approche de la sensualité qui est plus riche, je pense qu'il y a un sentiment d'empouvoirement aussi qui leur parle.
Ou les femmes seraient... Pardon, Manon ?
Non, j'allais dire, elles viennent parler avec vous, après, vous parlez
oui,
avec elles,
sûr, qu'est-ce qu'elles
vous disent ?
Bah, je pense qu'il y a une fascination aussi d'être en phase avec son corps et de pouvoir improviser aussi avec le public en étant à l'aise, nue. Et je pense qu'elles aimeraient pouvoir passer le pas, ne serait-ce que pour un loisir.
Il y a des clubs amateurs, pardon, pour se mettre à l'effeuillage burlesque ?
Par club, vous entendez des cours ?
Des cours, pour s'initier dans
toute la France.
Ah oui, partout.
Trouvé à Paris, j'ai plein de collègues qui donnent des cours.
On fera une petite initiation, Mathieu. Quel âge à peu près, quelle catégorie socio-professionnelle viennent dans vos salles ?
Dans le public, oui. On retrouve de tout, des plus jeunes aux personnes plus âgées.
Ça parle à la génération Z, ça ?
Oh, je crois, oui.
Ouais, ok, ouais. Très bien.
Et vous, comment vous êtes tombée dans le néo-burlesque, qui tentait qu'on tombe dans le néo-burlesque ?
Eh bien, par hasard, moi, j'arrivais dans ma deuxième école de théâtre, j'étais comédienne de formation, je rentrais au studio d'Anières et j'ai rencontré une performeuse américaine qui s'appelle Gentry de Paris, et elle proposait des cours, et avec plusieurs copines, on y est allé. Et c'est vrai que j'y ai trouvé une grande richesse, une liberté incroyable de pouvoir monter des numéros, être à l'origine de tout, dans le numéro. Ça m'a beaucoup parlé parce que, en tant que comédienne, jeune comédienne à l'époque, j'avais 23 ans, je trouvais que c'était très frustrant d'être dans l'attente, de dépendre du désir de l'autre, d'être choisie, de passer des castings, les rater, attendre toujours d'être choisie pour un projet. Là, j'ai trouvé une porte ouverte à l'indépendance.
Manon.
Il faut être à l'aise avec son corps quand on fait du burlesque, on le découvre au fur et à mesure.
On le devient à l'aise.
On le devient à l'aise, mais c'est sûr que, in fine, on va finir dénudé sur scène. Donc il faut apprendre à aimer son corps et à le célébrer, ça c'est certain.
Comment on fait ça ? Comment on accepte son corps ?
Je pense, enfin en tout cas, selon moi, en se créant un personnage, on se choisit un nom de scène et en se créant un personnage, on se donne du courage, un prétexte, des conditions favorables pour se déshabiller.
Vous pouvez nous décrire votre personnage à vous ?
Moi, mon personnage de Mara Denudé, c'est une exacerbation de la féminité avec un côté sur. Année, je suis assez fascinée, moi, par les grandes actrices, les grandes figures de l'âge d'or d'Hollywood. Et ces femmes androgynes, bisexuelles, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée.
Est-ce que le fait que ça plaise tant aux femmes
côté spectatrice et aussi en tant que performeuse, c'est pas, pardon, j'imagine ça juste comme ça, est-ce que c'est pas une manière de se réapproprier une nudité qui a souvent été mise en scène par des hommes?
Absolument.
Une nudité féminine vue par des hommes, on va faire ci comme ça, ça comme ci comme ça, et vous, vous faites ce que vous voulez en fait, vous créez une forme de poésie qui est la vôtre.
Absolument, le corps des femmes a été tellement objectivé à travers les époques qu'enfin, en se mettant en scène sur scène, en se dénudant, on devient sujet de son propre spectacle, à l'origine de la production même de spectacle, et ça, ça on le doit au New Burlesque, oui.
On utilise le terme féministe un peu pour tout, mais est-ce que c'est féministe le néo-burlesque ?
Bien sûr, évidemment, évidemment, de par tout ce qu'on entreprend et d'assumer notre nudité sur scène, oui, absolument, c'est féministe. Entre performeuses, on est solidaires aussi, on fait bloc aussi pour arriver à développer nos projets, et en ça, c'est féministe, oui.
On a beaucoup parlé des femmes hein, dans ce début d'émission. Je vois Cyril qui fulmine un peu en régie. Un homme qui fait vroom vroom sur une moto. Un homme qui fait vroom vroom sur un jet ski. Un homme qui fait vroom vroom en se tortillant sur un canapé avec le casque d'Ayrton Senna vissé sur la tête. Non, ce n'est pas les visions d'un individu victime de démence quand il arrête son traitement. C'est le récap 2024 de Quentin sur Instagram. Ce qui pose une question, Quentin, devrait-il démarrer un traitement? En attendant, vous avez repris vos bonnes habitudes. Vous êtes allé interroger les passants sur notre mot du jour, Quentin, et c'est près de Pigalle que vous êtes allé discuter.
En haut de la rue des Martyrs, dans le 9e arrondissement de Paris, évidemment, Cyril en parlait dans son inarable D'où ça sort, quel lieu incroyable, le quartier des cabarets. Caroline passe devant le numéro 74, on est dans le 18e là. Un legging à paillettes, ce mot l'intrigue.
Oh là, le néo-burlesque.
Bon, c'est pas un héritage dans la rue là.
Il y a un petit héritage, ouais, Madame Arthur. Mais déjà, il y a une queue de malade, donc ça, je pensais pas. Mais tous les soirs, c'est blindé parce que j'habite à côté. Non, et en fait, tu chantes avec les mecs, c'est super. Et en fait, tu rencontres ton voisin, tac, tu commences à discuter tout ça. Et tu connais les chansons qui sont revisitées, donc qui te rajoutent des petits twists hyper sympas. Et ça, pour ça, Madame Arthur, ils sont hyper hyper cool. Moi, j'ai envie de me mettre nue sur scène avec eux, quoi, et de danser. Bon.
Madame Arthur, je vais y revenir un peu plus tard. Mais après tout, comme le propose Caroline, vivons comme on est né, nu. Lui n'est pas nu, mais porte un gros manteau d'hiver. Il n'est plus tout jeune, canne à la main, chapeau, on dirait Churchill. Je peux vous déranger ?
Oui, oui, bien sûr.
Bonjour.
Salut.
Quel est votre prénom ?
Jean-Jacques Lebel, L-E-B-E-L.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Pittore, peinture.
Bonne année.
Merci, vous aussi.
Je vous fais lire un
truc. À part ça ?
Bah, à part ça, on va parler. Jean-Jacques Lebel, artiste exposé au Palais de Tokyo à Pompidou, que je rencontre par hasard. Il découvre le premier mot de 2025 de Zoom Zoom Zen.
Le néo-burlesque. Alors, le burlesque en anglais, c'est une sorte de striptease qui se passe dans un théâtre, dans une boîte de nuit, avec des dames avec des grosses fesses qui bougent les fesses, qui s'amusent beaucoup, qui rigolent, qui essayent d'exciter les clients. Et le néo, ça, je ne sais pas.
Alors, comment expliquer le succès de cette mise en scène de l'effeuillage, du monde qui revient dans les cabarets et qui se font une nouvelle jeunesse, plus de 100 ans après les premières performances du genre ? Est-ce qu'il voit de quoi je parle ?
Oui, je vois très bien, oui. Parce que les gens s'emmerdent, sont dans des cages qui les enferment, comme des oiseaux, et qu'ils ont envie de sortir de leur cage et de leur quotidien minable.
Bon, c'est un peu réducteur, mais soit, je l'emmène sur les enjeux de notre époque, le genre. Par exemple, aujourd'hui, l'effeuillage, ce n'est plus une femme qui se déshabille pour des hommes.
Oui, je pense que c'est très important pour tout le monde de comprendre que nous ne sommes pas un ou une, nous sommes plusieurs. Nous sommes toujours pluriels. Toujours. Mais malheureusement, la société étant donnée ce qu'elle est, nous oblige à ne vivre qu'un seul de ces personnages, alors que nous sommes plusieurs. Vous, comme moi, comme tout le monde. Je crois que ça, c'est intéressant.
Et à 88 ans, c'est intéressant de l'entendre. De l'autre côté de la rue, c'est un autre personnage que je vois arriver de loin. Lunettes, fumée, bleu ciel, bandana, dreadlocks, une sorte de Keith Richards, mais à la française.
Bonjour.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Claude. Ah, le néo-burlesque. Bah, j'ai eu plein de copines stripteaseuses. Je faisais des cabarets de province. Donc, il y en avait, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup maintenant, dans toutes les grandes villes.
Claude me raconte son passé de chanteur, de performeur dans les cabarets de province et s'arrête sur un souvenir de tournée.
À Dijon, il y avait une artiste qui s'appelait Fétiche, qui était très connue. C'était une transe incroyablement belle, un mélange entre Juliette Gréco. Enfin, c'était très, très beau. Et puis après, elle courait dans la coulisse Elle me demandait d'où je venais et tout. Et puis, ce que c'est assez étonnant, c'est que c'était la première fois que je faisais l'amour, d'ailleurs, avec une femme qui est aussi un homme, quoi. Mais je savais qu'au dernier moment, quoi. C'était poétique en même temps.
Sacré Claude, il se confie sur ses nuits des années 70 qui ont gardé une part de leur secret. Pour Claude, l'époque est paradoxale, coincée entre liberté et censure des tétons de femmes sur Instagram. Alors, en 2025, la scène est-elle le dernier lieu où la liberté est totale? Le cabaret Madame Arthur, je vous l'avais dit, j'y reviens, il est juste derrière moi. Je suis désormais juste à l'entrée du cabaret, une porte rouge. C'est à cet instant que notre collègue et amie Marie de Breuer m'envoie ce message. Au fait, tu peux sonner chez Madame Arthur, j'ai prévenu.
Bon, bah, comme ça, tu visites les bureaux de Madame Arthur. Ça marche bien, votre émission, là, je crois. Hein.
Ouais.
Ça, c'est le carton.
Bonjour. Celui qui m'accueille, c'est Louis Chabin, directeur de la communication chez Madame Arthur. Pour lui, en 2025, c'est quoi le
néo-burlesque. Bah, le néo-burlesque et le cabaret en général, ça propose quand même un esprit de liberté des corps et des différences de corps. Et en fait, dans le burlesque et dans le néo-burlesque et dans le cabaret en général, bah, c'est-à-dire qu'on arrive à faire quelque chose de très sexy avec tout type de corps. On a tendance à penser qu'il faut avoir un corps mince, svelte et très sculpté pour faire du burlesque et générer du désir sur scène. Et en fait, le burlesque et le cabaret vont montrer que pas du tout. Tout type de corps, des gens très grands, des gens très petits, des gens gros, des gens minces peuvent générer le désir et l'érotisme d'une certaine manière dans une performance artistique. Et ça, qu'importe la forme des corps qui est proposée sur scène.
Une recette de liberté qui s'empare des enjeux de notre époque. Alors, pour bien commencer l'année, vous reprendrez bien un zeste de néo-burlesque.
Mara de Nudy. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas très bien, c'est quelle est la part d'érotisme et la part de purement artistique, poétique du new burlesque. Est-ce qu'il faut forcément que ça soit érotique?
Non, pas forcément, non. Pas forcément. Mais tout dépend de ce qu'on a envie de développer comme numéro. Là, je vous parliez de Madame Arthur. Moi, ça me fait penser à un numéro que je fais en clin d'œil au premier striptease effectué sur une scène de théâtre, qui est le coucher d'Yvette. Moi, je fais le coucher de Mara. Et c'est un numéro qui va être plutôt poétique, mais qui va quand même charmer à sa façon, il va quand même y avoir un effeuillage. Et même s'il reste très soft et poétique, il est là et il a le mérite d'être présent.
Caroline qui nous dit « ça me donne envie de me foutre nu avec eux », ça peut déclencher ce genre de réaction?
Ouais, bah carrément, j'espère. Oui,
qu'est-ce qui se passe après ces spectacles? C'est la question que Quentin vous pose.
Souvent tout le monde danse, mais tant mieux que ça donne... Je suis très fière si ça donne envie aux gens de se lever, de se libérer. S'ils veulent se mettre à poil avec le consentement des autres, tout va bien. On entendait Jean-Jacques, 88 ans, qui disait que ces danseuses, enfin, vous du coup, étiez là pour exciter le client. C'est des stéréotypes encore, ça? Oui, et en même temps, non, il y a quelque chose. Si dans l'œil du public ça frise et ça émoustille, c'est aussi le but. Il y a des performeuses. Moi, je pense là tout de suite à Dirty Martini quand elle se met à faire tourner ses tasseuls, ses pompons au bout de ses cache-tétons. On sent une énergie dans la salle qui est incroyable et on a envie de se lever avec elle.
Vous pouvez nous rappeler qui est Dirty Martini?
Légende du burlesque américain, une icône qui travaille toujours, qu'on retrouve sur les plateaux de Dita Ventis, notamment, parce qu'on va en parler. Et c'est une artiste incroyable, vraiment.
Alors on la trouve toujours, mais elle a quel âge, on peut le dire?
Je ne connais pas son âge, mais ça, c'est aussi une chose très positive dans le burlesque, c'est qu'il n'y a pas d'âgisme. Et du moment que la performance est de qualité...
Il n'y a pas de limite d'âge?
Bien sûr que non, encore heureux.
Quentin,
pardon, j'étais en train de chercher l'âge.
Vous étiez sur Internet, vous étiez l'âge.
Elle est née en 69, Dirty Martini. C'est pour ça. Je cherchais en même temps parce que je suis curieux. Caroline, qui nous disait que ça donnait envie de se mettre nue, mais elle nous a aussi parlé. On a vu des cabarets de province.
Ouais.
Ça existe encore? Est-ce qu'il y a un public parisien du cabaret ou provincial du cabaret?
On part en tournée régulièrement.
Dans toutes les grandes villes, il y a des cabarets?
Bien sûr, il y a des cabarets traditionnels avec des revues classiques et parfois on est même invité à venir ponctuer un petit peu la revue qui est un peu traditionnelle, qui peut paraître un peu sur vieillotte, sur année, et on vient rajouter nos performances un peu plus actuelles. Et oui, il y en a partout. On vient avec des collègues qui ont des spectacles de cabaret burlesque. On va pouvoir performer dans toutes les villes de province et j'espère plaire au public, leur donner envie de se donner de la confiance, du pouvoir.
C'est presque thérapeutique à vous écouter.
Ah, complètement. Je pense que pour les personnes qui l'envisagent de manière comme un loisir, c'est thérapeutique. C'est aussi voilà, se redonner de la joie, de jubiler à être nu, à s'autoriser d'être avec soi pendant une heure.
C'est gênant. Et Quentin ?
Non, pas rien.
Ah non, vous contentez de pouffer ?
C'est parce que je vais faire un dépouillage pendant
Zoom Zoom Test. Très bien.
C'est pour ça.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Qui va finir ce premier quiz de l'année intégralement nu, avec le micro d'Inter en guise de cache-sexe ? Oui, vu les statistiques, la réponse est certainement Quentin. Mais oui, dans le doute, jouons quand même au Zoom Zoom Test. À la rencontre aujourd'hui de ces stars dont vous ne soupçonnez pas qu'elles ont fait, elles aussi, de l'effeuillage. Et pourtant, and yet, comme le dit toujours Cyril en soirée aux gens qui refusent de le croire quand il leur dit qu'il a bossé au FBI. And yet, donc, les célébrités que nous allons évoquer dans ce quiz ont bel et bien déjà pratiqué le striptease. Je signale d'ailleurs que jamais Gérald Arnault, qui m'aide à préparer cette séquence, n'avait autant bossé un sujet de 4 questions rédigées, on le sentait péniblement pour le quiz sur le paracolonialisme. On est monté, c'est une première, à pas moins de 17 questions pour ce quiz striptease sur lequel il a passé la nuit, essentiellement à visionner des vidéos de Dita Von Teese pour, je le cite, bien s'imprégner du sujet. On cherche donc des stars mondiales qui ont déjà pratiqué le striptease et on commence avec une star du cinéma.
Hitler.
Non, mais non, pas Hitler. Et il est d'ailleurs temps que vous jouiez enfin le jeu du dry joinery, ça vous ferait le plus grand bien. Attention.
C'est une mauvaise réponse, du coup.
Exactement. Cette douce mélopée andalouse, trésor de la musique espagnole, est un clin d'œil à mes origines. Né aux Canaries, j'ai pratiqué dans J'ai pratiqué dans ma jeunesse.
J'étais là encore.
Je fais le personnage. J'ai pratiqué dans ma jeunesse le rugby au niveau international. Dans les vestiaires saturés de testostérone, on me surnommait la croûte, El Croutas. Ce que mes coéquipiers ne savaient pas, c'est que j'étais aussi stripteaseur à mes heures perdues. Je suis Antonio Banderas, Sergi Lopez ou Javier Bardem.
B.
Non. Alors là, vous allez tous finir à poil plus vite que prévu.
Bah c'est alors, mais...
Bonne réponse de Manon, qui conserve donc son col roulé. Réponse C, et oui, bien avant de devenir acteur et de décrocher un Oscar, Javier Bardem a été stripteaseur, alors juste 2 fois en fait. La première, c'était pour faire une surprise à un pote lors de son mariage. La deuxième, dans un bar où le patron l'avait justement repéré lors de ce mariage. Particularité de cette deuxième fois, rémunérée, il n'y avait dans la salle ce soir-là que le patron du club et la sœur et la mère de Javier Bardem qui l'avaient supplié de venir parce qu'il était tout stressé. Mais attention, quittons le stupre des bars à gogo dancer de la Jonquera, où Cyril s'est trop souvent égaré, pour partir à la rencontre d'une autre star mondiale du cinéma, elle aussi. Comme vous, Manon, elle a d'abord été chanteuse avant d'exploser sur le grand écran, mais voilà, encore avant, elle est passée par la case striptease afin de financer une petite opération. D'après vous, à quelle actrice fais-je référence ? Sandra Bullock, Catherine Zeta-Jones ou Margot Robbie ?
B.
C.
Pour vous, c'est l'actrice de Barbie qui aurait fait du striptease.
Ouais.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Vous êtes toujours très habillé, Quentin. Réponse D. Elle a été l'inoubliable femme de Zorro dans ce qui restera comme un des films préférés de Quentin, lui, avec 2012 de Robert Zemeckis. Antonio Banderas en Don de la Vega, c'était quand même autre chose que Jean Dujardin persiflera Manon, visiblement déçue du remake 2024.
C'était nul, je peux le dire.
Très bien. Et c'est donc bien Catherine Zeta-Jones qui, dans une autre vie, pour financer une rhinoplastie, s'essaya au striptease. À noter que la célèbre actrice avait démarré sa carrière à l'écran dans un film français, Les Mille et Une Nuits de Philippe de Broca, avec Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte, qui auraient déclaré.
Eh ben je sais pas quelle elle est là.
Oui, non, oui.
Mais elle aime la...
Oui, merci, merci Thierry, autre époque, autre mœurs. Et maintenant, mettez la clim et mouillez-vous la nuque, nous ouvrons le dossier Brad Pitt et le striptease, radioscopie d'une passion. Il a peut-être marqué à jamais le 7e art avec des œuvres majeures telles que Bullet Train, 3, Cartel ou Ocean's 13. Et je ne dis pas ça parce que je suis jaloux, il faut quand même admettre que Brad Pitt est à la jante masculine ce que le moustique est au juilletiste, une cible à abattre. Parmi les propositions suivantes concernant Bradounet, lesquelles sont vraies ? Brad a été agent de stripteaseuse. Brad a été chauffeur de stripteaseuse. Brad a été tout simplement stripteaseur.
B.
Ah.
C. S'il avait été stripteaseur, on le saurait.
Donne l'opportunité d'une autre réponse.
Les trois.
Les trois.
Une autre réponse. Oh oui, oh, bravo Manon, et je ne vous ai pas du tout guidé. Réponse B, c'est mon Dieu qu'il fait chaud dans ce studio. Bien avant sa prestation dans Thelma et Louise devant une Gina Davis aussi médusée que l'abbé Chibrard au concert des To Be Free, Brad a vraiment été stripteaseur au sein des Dancing Bears, une team de 7 effeuilleurs amateurs qui sévissaient à l'université du Missouri avant de devenir par la suite chauffeur pour professionnels du déshabillage.
Mais où sont les vidéos
écoutez, on les mettra en ligne éventuellement si on les trouve sur le site de Radio France. De stripteaseur à star du cinéma.
De Radio France. Non, mais n'importe quoi. Il n'y a plus d'appli, il n'y a plus de téléphone.
Si vous voulez plus d'informations, appelez tout simplement le standard. De stripteaseur à star de ciné, une trajectoire finalement classique. D'après vous, Manon Quentin, qui a déclaré « Je me suis jeté corps et âme dans plein de jobs différents, je suis allé à l'école de la vie, en quelque sorte, et le striptease en fait partie. » Robert Pattinson ?
Non.
Shia LaBeouf ?
Shia.
ou Channing Tatum.
Mais, ah non, c'est Channing Tatum.
Oui, mais attention, vous êtes repris. Je sais pas si
il a joué dans Magic Mike et tout.
Non, elle a repris. Hein.
Bah, c'est dire... ce que je viens de dire. Oui, mais il l'a été.
Ah, il l'a été. Oh, c'est une bonne réponse de Manon.
J'ai même pas le temps de répondre.
Bah, mais désolé d'être vive.
Toutes les bonnes informations.
Elle se trompe et après elle.
Non, elle ne se trompe pas, Channing Tatum. Il a même vu son étonnant destin porté à l'écran dans Magic Mike, un film de Steven Soderbergh. Mais attention, question bonus, juste comme ça. J'ai été élue championne de France de striptease et Playmate France par les lecteurs de Playboy. Je suis Manon Cassini, Manon Mariani ou Manon Pastrami.
C'est.
Peut-être une autre réponse.
Ah.
Oh oui, bonne réponse. Ouais. Manon Cassini, qui d'après son compte Instagram, que nous fact-checkons régulièrement dans Zoom Zoom Zen, est effeuilleuse, musicale, burlesque, comédienne, voix off. Manon, elle, ne sera jamais championne de France de striptease, mais elle restera jamais Miss Courchevel 2007. Et
merci,
c'est
bien.
Victoire de Manon Mariani, comme c'était prévisible.
Et toujours en col roulé.
Toujours en col roulé.
Et je suis également habillé.
Évidemment. Il inspire des films, des séries, des expos. Mais savez-vous exactement ce qu'est le New Burlesque ? On en parle cet après-midi avec celle qui pratique justement l'effeuillage néo-burlesque, Mara Denudé, et notre invitée jusqu'à 17h. Ça vient d'où ce pseudo, Mara Denudé ? Comment vous l'avez trouvé ?
Eh bien, quand j'ai commencé le burlesque, j'ai toujours été fascinée par le révolutionnaire Mara. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais quand j'allais au musée Grévin, ce prénom était resté dans ma tête. Je trouvais ça fascinant qu'il soit... qu'il a été assassiné par Charlotte Corday. Donc j'avais Mara
dans
en tête.
Dans son bain.
Exactement, dans son bain. Et Gentry de Paris, à l'époque, me disait Mara, c'est bien. Bon, Mara des Bois, c'est un peu naze. Il fallait trouver quand même un jeu
aussi.
De mots. Et donc elle m'a dit, pourquoi pas Mara Denudé ? Et là, je dis, ah oui, Mara Denudé, c'est pas mal. Ça fait penser à la Mara Desnuda de Goya, le tableau, voilà, où elle est habillée et un autre déshabillé. Et là, je me suis dit que ça commençait à avoir un peu de gueule, Mara Denudé, une petite particule.
Oui, comme ça, on s'offre une petite particule au passage.
Voilà, exactement. Ça donnait un peu corps au personnage.
Et dites-moi, Mara, qu'est-ce que vous ressentez exactement quand vous êtes sur scène ? Parce que nous, on a parlé côté spectateur, l'érotisme, la drôlerie, la poésie qu'on voit, mais quand vous incarnez le personnage, vous ressentez quoi sur scène ?
Bah, selon les numéros, j'ai des personnages différents. Je vais en avoir un qui a un clin d'œil à Mata Hari, par exemple. Donc, je vais essayer de me mettre dans le personnage. Comme j'ai une formation d'actrice, bah, voilà, quand je crée un numéro, je me pose toujours voilà, un peu les mêmes questions. Quel personnage ? Pourquoi il va se déshabiller ? Dans quel contexte ? Quelle est l'histoire de cette femme ? Et voilà, je peux y repenser avant de monter sur scène ou je peux être juste un peu prise par le stress. Mais voilà, c'est ce qui me traverse l'esprit avant de monter sur scène.
Et vous parlez de l'aspect créatif de la mise en scène. C'est toujours la performeuse elle-même qui définit sa mise en scène ou il y a des metteurs en scène de néo-burlesque qui peuvent vous guider ?
En tout cas, on est tous, dans les collègues que j'ai, on est tous solistes et on est tous à l'origine de nos propres numéros. Après, il peut y avoir des productions qui créent les numéros de tous les performeurs, mais c'est pas vraiment
c'est pas la norme,
ce qui se fait à l'habitude, non.
Est-ce que vos proches viennent vous voir ?
Ah oui, bien sûr, ouais. Je crois que à peu près toute ma famille est venue me voir sur scène.
Il n'y a pas de gêne de leur côté ou du vôtre ?
Non, je pense
pas. Ils ont tout de suite adhéré, ils ont tout de suite compris ce que la dimension poétique du truc ou il a fallu les convaincre, leur expliquer un peu ce que était le néo-burlesque ?
Ouais, je pense qu'il peut y avoir un peu d'appréhension, mais j'ai tellement été à l'aise avec mon métier que ça la joie se transmet, j'ai l'impression.
Est-ce qu'il y a un renouveau aussi des cabarets plus globalement ? Je pense avec les drag queens, notamment.
Ah oui, bien sûr. Elles ont tellement le vent en poupe et il faut absolument qu'elles surfent là-dessus. Et il nous arrive même voilà, de mélanger nos forces et de se retrouver dans des spectacles où il va y avoir, comme avant, comme dans le burlesque traditionnel, du stand-up, des drags, des performances burlesques. Et à mon sens, ça fait partie des meilleurs spectacles quand on mélange tous les arts.
Vous décrivez un milieu qui fait rêver un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas de la concurrence quand même ? Il n'y a pas des aspects négatifs entre performeuses ? Vous tirez un peu la bourre, non ?
Exactement, mais ça c'est depuis la nuit des temps. Il y a plein de performeuses à l'époque, comme Sally Rand et Faith Bacon, qui se sont un petit peu disputées la création des éventails en plumes. Et ça, ça continuera toujours dans tous les corps de métier.
Vous n'êtes fâchée avec personne ?
Mais j'espère pas. J'estime quand même être une personne sympa.
Vous êtes très présente sur Instagram, notamment. Ouais. C'est une autre scène pour vous ou ça ne remplacera jamais le spectacle en live ?
Oh, c'est une façon toute bête de promouvoir nos spectacles, clairement.
Vous ne faites pas censurer ?
Oh si, oui, bien sûr, on n'a pas trop le droit de montrer un corps trop dénudé sur Instagram, ouais, on se fait...
Comment vous faites ? Parce qu'il y en a qui floutent, les seins, par exemple.
Et pourtant, on a des caches-tétons,
ouais. Ouais, bah oui.
Mais qui était d'ailleurs à l'époque une arme contre la censure, hein, parce qu'on leur supprimait le droit de trop se déshabiller, on menaçait les théâtres de se faire enlever leur licence, et du coup, les performeuses étaient assez créatives pour inventer le cache-téton, puis ensuite des ficelles pour dire « Non, on est en soutien-gorge, de loin, c'est un soutien-gorge. » Et donc oui, on a beau jouer avec les lois de censure d'Instagram, c'est un calvaire pour travailler. Mais venez nous voir sur scène,
alors
c'est bien plus intéressant.
On vous a écouté, Mara Dunay, où est-ce qu'on peut vous voir pour se faire notre propre opinion sur les néo-burlesques ?
Je travaille avec plein de productions, mais je suis assez fière de pouvoir relancer un spectacle que j'avais créé qui s'appelle La Scandaleuse. Et la prochaine date, c'est le 14 mars au Belle Poule, qui est un lieu exceptionnel dans lequel j'ai la chance de travailler.
C'est à Paris.
Au Belle Poule, exactement. C'est le dernier décor de Maison Close. Et c'est un endroit fabuleux, un bijou de l'art déco. Et pour un lieu qui a exploité les femmes, c'est une belle revanche quand même, que ce soit des femmes qui
leur investissent.
Exactement.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir l'autre personne à suivre sur le sujet. Ma chère Manon.
Je vous présente Heather Renee Sweet. Elle a 52 ans, elle est américaine et elle est surnommée la reine du burlesque. Le monde entier la connaît mieux sous son nom de Dita Von Teese, on l'a évoqué. Un nom en hommage à l'actrice Dita Parlow et donc à son amour pour l'esthétique du cinéma des années 40. Vous avez sûrement déjà vu à quoi ressemble Dita Von Teese. Carré noir, lingerie sexy, maquillage très prononcé, pose suggestive. Son style est un mélange de vintage et de modernité, encore une fois empreint de référence aux grandes divas hollywoodienne comme Rita Hayworth et Marilyn Monroe. Grâce à son look, ses danses et son humour, elle se fait très vite repérer dans les années 2000. Playboy la met en couverture et son style rétro-chic attire les plus grands magazines de mode comme L'Officiel ou Citizen K qui la mettront aussi en couverture. Ce qui plaît, c'est que Dita incarne un burlesque raffiné, centré sur l'élégance, l'art de la suggestion et le jeu de la séduction plutôt que sur la vulgarité. Elle fusionne le striptease avec des éléments de théâtre, de danse et de haute couture d'ailleurs. Elle a même défilé pour la Fashion Week à plusieurs reprises. Et puis, son mariage avec le chanteur gothique Marilyn Manson lui a permis d'accentuer sa popularité grandissante. Les deux ont été ensemble entre 2005 et 2007, mais ça a suffi. En même temps, la figure du burlesque rétro en couple avec l'icône des métalleux, forcément, c'est un hit couple assez assorti. En France, Dita Von Teese a une popularité assez particulière, car depuis 20 ans, elle donne de multiples spectacles à l'emblématique Crazy Horse. Son premier, en 2006, a marqué le milieu du burlesque car il a participé à populariser et à médiatiser cet art trop souvent soumis à des stéréotypes. Elle a même été candidate à l'émission de TF1 Danse avec les stars en 2021. Une danseuse burlesque dans une émission familiale du samedi soir, j'ai envie de dire, ça aurait été impossible il y a encore quelques années. Aujourd'hui, l'effeuillage glamour de Dita Von Teese a inspiré toute une génération de danseuses néo-burlesques. Je vous recommande de regarder ses shows où elle danse dans un grand verre, c'est un peu sa spécialité et c'est vraiment très beau à voir.
Et surtout un grand verre, vous, ça vous inspire.
Toujours, évidemment.
Même s'il est vide, j'imagine. Enfin, j'espère. Merci Manon. Mara Dunay, vous êtes d'accord ? Elle a vraiment changé le game du néo-burlesque, Dita Von Teese ?
Ouais, je pense qu'elle a quand même réussi à démocratiser notre art. Et du fait que ça soit une grande businesswoman, je pense qu'on lui doit malgré tout beaucoup. Ouais.
Elle a toujours ce phénomène d'entraînement et elle continue d'être le porte-étendard du burlesque.
Ouais. Encore aujourd'hui, c'est un spectacle à Las Vegas qui a beaucoup de succès.
On vous le souhaite aussi, un jour, le spectacle à Las Vegas. On viendra vous voir.
Mais j'y suis déjà allée.
Oui, non, mais hein, quotidien. Moi, c'est ça que je veux voir.
Quotidien. Pas,
je vois grand.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Durant les fêtes de Noël, il a deux passions. Apprendre par cœur tous les cantiques pour épater l'abbé Chibrard lors de la messe de minuit et exhumer de vieilles photos de moi torse nu dans les bas-fonds du dark web. Oui, c'est un être ambivalent, ange et démon, comme pourrait d'ailleurs en témoigner la serveuse de cet établissement montmartrois que nous avons fréquenté pour la soirée Zoom Zoom Zen, n'est-ce pas, de Noël. Oui, choupi, c'est le mot. Chaque après-midi, Pierre, pour racheter vos péchés, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et le néo-burlesque pour cette première émission de l'année avec l'une des plus grandes professionnelles de la place de Paris, Mara Denudé. Mara nous a expliqué en quoi le néo-burlesque ou new-burlesque, hein, pour le plus américain d'entre nous, Cyril Lacarrière, est plus revendicatif que le burlesque de la fin du 19e siècle. Et là, on revient encore une fois à Cyril, hein, fan numéro 1 de Blanche Cavalli dans sa prime jeunesse, on l'a bien compris, dans son doux assor. Blanche Cavalli, star de Les Feuillages, qui a ouvert la voie à Joséphine Baker, des femmes fortes hein, déjà à cette époque et dont s'inspirent toujours aujourd'hui les artistes qui pratiquent le néo-burlesque. Avec ce petit truc en plus, une part plus poétique, plus politique aussi, plus queer qu'un effeuillage de cabaret qui était jadis essentiellement destiné à un public masculin. Le burlesque d'aujourd'hui attire un public beaucoup plus mixte, 70% de femmes. Les artistes sont eux aussi plus divers. La revendication de la différence passe par les corps. Se réapproprier son physique, quel que soit son âge, c'est tout le sens de l'effeuillage. Montrer la diversité, opter pour l'humour pour ne pas tomber dans le vulgaire, c'est la différence avec le simple striptease, d'autant plus que l'artiste burlesque, elle, porte toujours un cache-sexe ou un cache-téton, n'est-ce pas Quentin ? Le néo-burlesque, c'est le second souffle du burlesque plus féministe, une renaissance née dans les années 90, on se souvient des shows de Dita Fontes. Aujourd'hui, le néo-burlesque s'apprend, des collègues de notre invité donnent des cours, sinon, pas besoin d'aller plus loin, hein. La théâtralité, l'humour, la mise à nu et un message, finalement, Zoom Zoom Zen, c'est aussi du néo-burlesque.
Sans le savoir.
Sans le savoir.
Sans le savoir. Et vous avez quand même oublié quelque chose, Pierre, on n'en a pas parlé dans cette émission. Le boyless. Qu'est-ce que c'est ?
Le boylesque, c'est exactement la même chose. C'est le burlesque effectué
par un homme.
Par un homme, ouais.
Il y en a beaucoup ?
Bien sûr, ouais, il y en a pas mal. Moi, je pense là tout de suite à Alexei Van Vossilius, qui est mon partenaire de danse. On fait des duos ensemble.
Très bien. Décidément. On en apprend des choses
Mathieu
dans cette émission.
C'est quand même bien.
Non, mais c'est fou 2025. Bon, le monde avance.
Je ne pouvais pas le résumer puisqu'on ne l'avait pas parlé.
Oui, mais par votre faute, parce que vous aviez oublié de le mettre dans les questions. Marine Leonardi. Marine Leonardi, vous avez trouvé ça assez étrange qu'on vous propose comme thème le néo-burlesque.
Bah, franchement, je me suis dit, ma pauvre Marine, t'étais déjà pas à la page du burlesque. Maintenant, il va falloir apprendre ce que c'est le néo-burlesque. Pour tout vous dire, une de mes résolutions de 2025, c'était de m'inscrire à des cours de pole dance, voilà, hein, pour me réhabituer à sentir un bâton entre mes jambes. Donc pourquoi ça tombe sur moi ce sujet ? Non mais vous m'avez regardé et vous vous êtes dit, ah non mais Leonardi c'est vraiment le genre de personne que les gens paieraient hein, pour voir nu avec des caches-tétons. Alors je vous explique hein, les gars, moi si tu me mets un cache-téton, bah ça cache tout le sein. Voilà, une brassière à sequins le truc. Non mais c'est juste pas mon univers quoi. Quand j'ai lu néo-burlesque, j'étais tellement à côté de la plaque que je me suis demandé si c'était pas une référence à mes vacances de Noël. Ah bah quand tu t'es fadé deux semaines de ta belle-mère avec ses petites remarque. Hein. C'est marrant, hein, je l'aurais parfois farci comme ça, moi, la dinde. T'es là et toi, Brigitte, hein, si on te met une plume dans le cul, est-ce que tu chantes Jingle Bell ? Je suis un peu tendue.
Oui, c'est vrai, on dirait.
C'était étrange hein, d'ailleurs d'être dans la maison de famille de mon mari et de mater des vidéos de femmes à moitié nues avec mon beau-père qui passe derrière. J'étais là, c'est pour le travail, hein, Fabrice, c'est pour le travail. Toi, t'es là en pyjama pilou-pilou un 1er janvier, le cheveu gras et des pantoufles hug au pied avec ta meilleure pote alcoolique en FaceTime qui te sort. Non mais meuf, 2025, c'est vraiment notre année, quoi. Tu savais que les gens qui mangeaient leur crotte de nez vivaient plus longtemps ? J'ai lu ça sur Combini ce matin. C'est quand même la première fois que mon mari m'a proposé son aide pour préparer la chronique. Hein. Bizarrement, il s'était pas autant investi pour Splinternet. Et là, tu te retrouves à mater en couple des vidéos de meufs qui arrivent à coordonner le mouvement de leur nichon avec celui de leurs pieds, sachant que toi, quand tu éternues, bah, tu croises les jambes, hein, sinon tu mouilles tes culottes. Et même si c'est une sensation qui est pas désagréable, ça fait chier de commencer l'année en sentant les pads. Et là, vous allez pas me croire, mais au détour d'une vidéo, je me dis, mais attends, je la connais, la nana. Et oui, avec notre invité, Mara, on se connaît. Non mais quel retournement de situation incroyable ! Et là, vous vous dites, mais c'est impossible. Comment ces deux parcours de vie se sont-ils entrecroisés ? À quel moment Mara a-t-elle accepté une invitation pour un week-end Center Parks avec activité agrobranche le matin et discussion sur le marketing digital l'après-midi ? Eh bien, nous avons un ami en commun et nous avons fait Avignon ensemble il y a bien 5 ou 6 ans avec Mara. Alors, il faut imaginer la scène. Hein. Mara qui joue à guichet fermé dans un spectacle où tu ressors soit ému aux larmes, soit éclatrique. Hein. Et moi, de mon côté, j'avais le rôle d'un poilu dans les tranchées pendant la guerre 14-18, dans une pièce de théâtre qui se jouait dans une cave à guichet très, très ouvert, hein, souvent devant 3 personnes. Alors bon, une cave très ouverte avec 3 personnes poilues, bon, c'est pas une représentation théâtrale, hein, c'est un lundi soir pour Slimane ou Cyril Lacarrière. Donc autant vous dire que quand Alix, mon mari, est venu voir le spectacle de Mara après avoir vu le mien, bon, bah, il a pleuré des larmes de sang. Hein. On a bu un verre avec Mara Avignon après qui a expliqué à mon mari que c'était politique de se dénuder alors que moi je venais de lui expliquer que c'était politique de plus prendre de douche. Bon, voilà, j'ai pas eu de rapport sexuel avec lui pendant 6 mois. Hein, ce qu'il a jugé être de son côté une punition, ce que j'ai appelé me concernant vivre ma meilleure vie. Conclusion, le néo-burlesque, c'est comme le théâtre amateur ou le pole dance, hein, quitte à être nul et avoir la tête qui tourne, mieux vaut être assis et profiter du spectacle.
Merci Marine Leonardi. On ne vous retrouve pas lundi prochain dans Zoom Zoom Zen, car madame a mieux à faire. Madame est en gala à Monaco. Je ne donnerai pas plus d'informations sur cette soirée qui
enfin
nous concerne pas.
Droite.
Très bien, oui, voilà, c'est ça. Vous allez prendre un peu les thunes. Merci beaucoup, Mara de Nunez, de nous avoir initié à l'art délicat du néo-burlesque. Zoom Zoom Zen.